Eh bien, je vois qu'il est quasiment 14h30 et en tous les cas, l'amphi est en plein. On ne va pas attendre davantage pour commencer. En regardant le programme, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de thématiques qui ont été retenues par demi-journée. Et pour les trois prochaines communications, l'idée, c'est de montrer à quel point les recherches ont pu être enrichies par des gens qui sont venus d'ailleurs, souvent dans des conditions qui ne sont pas forcément volontaires, mais voilà, l'enrichissement de la recherche à travers les migrations de savants, c'était un des thèmes qui avait été annoncé. Et on commence donc par la communication de Sébastien Balibard, donc, qui est intitulée « Savants réfugiés, comment la physique quantique devint visible à l'œil nu ». Et on va vous écouter avec...
Merci infiniment. Je souhaite, pour commencer, remercier Patrick Boucheron et Alain Prochian qui me donnent l'occasion de vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de la rencontre de deux savants réfugiés à Paris en 1938 qui, grâce à cette rencontre, donc, font une découverte qui me paraît majeure et que je vais vous expliquer brièvement. D'autre part, cette histoire est particulière parce que les savants réfugiés ne sont pas des réfugiés ordinaires, mais je crois néanmoins qu'elle illustre beaucoup d'aspects de problème qui est celui de ce colloque, à savoir immigration, réfugiés, exil. Enfin, je ne suis pas historien, comme certains d'entre vous le savent sûrement. Je suis physicien, mais je souhaite donc aussi de remercier vivement Diane Dossot, qui est co-auteur de cette communication, qui, elle, est historienne des sciences, et grâce à qui j'ai pu comprendre comment l'accueil de ces réfugiés s'est déroulé en France, c'est-à-dire ici même au Collège de France, et puis de l'autre côté de la montagne Sainte-Geneviève, à l'Institut Henri Poincaré. Donc, cette histoire a une préhistoire. La préhistoire se passe en 1932 au Canada, où M. John McLennan découvre qu'un liquide extrêmement froid, c'est de l'hélium liquide à 2,2 degrés absolus, c'est-à-dire à moins 271 degrés habituels Celsius. Donc il découvre que l'hélium liquide a deux comportements différents. Au-dessus de 2,2 Kelvin, donc à 2,3, quand on le chauffe un peu avec cette résistance chauffante, vous voyez que l'hélium liquide dans ce vase en verre bouillonne comme tout liquide classique qu'on chauffe un peu. Mais dès qu'on passe en dessous de 2,2 Kelvin, donc c'est là, c'est 2,1, eh bien, il s'établit une sorte de calme extraordinaire. On a beau chauffer, ça s'évapore par l'eau, mais ça ne bouillonne pas. Et donc, c'était la première découverte des propriétés bizarres de ce liquide. Quelques années après, à Cambridge, en Angleterre, Jack Allen, je vais revenir sur lui comme tous les noms qui sont en rouge, Rudolf Peierls et je ne me rappelle plus quel est son prénom, Houdin, découvrent que ce liquide froid conduit encore mieux la chaleur que le cuivre, ce qui est franchement extrêmement étonnant. Bon. Donc on a l'impression que ce liquide passe d'un état désordonné à un état ordonné, mais de quel ordre pouvait-il bien s'agir? Les gens n'avaient aucune idée à l'époque de ce que ça pouvait être. Alors je saute quelques années et j'arrive en janvier 1938, où la revue Nature, que vous connaissez certains d'entre vous très bien, publie deux articles côte à côte, page 74, page 75. Le premier article concerne toujours cet hélium en dessous de cette température critique. M. Kapitsa, Piotr, à Moscou, nous explique qu'il a réussi à faire couler de l'hélium liquide à travers une fente extrêmement fine parce qu'entre deux disques polis pressés l'un contre l'autre, et que cet hélium semble passer au travers de cette micro-fente extrêmement facilement, comme s'il n'avait aucune viscosité. Et c'est pour ça qu'il invente un mot qui restera, il qualifie ce liquide froid étrange de superfluide. Et puis sur la page d'en face, page 75, donc deux chercheurs de Cambridge, Jack Allen, dont j'ai déjà dit le nom, et Donald Meisner, font des études du même liquide très froid en le faisant s'écouler le long de capillaires, donc de tubes très fins, et ils mesurent la pression nécessaire pour que ça coule et la vitesse à laquelle ça coule en fonction du diamètre. Et ils s'aperçoivent, aux surprises, que la vitesse à laquelle ça coule semble indépendante et du diamètre et de la pression, ce qui, à nouveau, viole toutes les lois de l'hydrodynamique classique qu'on pouvait connaître à l'époque. Donc c'est eux qui découvrent en fait que ce liquide est absolument, disons, non classique. Alors, avant d'aller plus loin, qui sont ces gens ? Je vais avoir une série de portraits tout au long de cette conférence. Piotr Kapitsa, donc, est né en Russie et assez jeune, en 1921, il a émigré en Angleterre, à Cambridge, au laboratoire de Ernest Rutherford, père de la physique nucléaire, extrêmement célèbre au moins chez les physiciens, prix Nobel 1908. Et dans ce laboratoire, il a tellement de succès que Rutherford décide en 1933 de construire un laboratoire entier qui est ici, à Cambridge, grâce à un don d'un mécène qui est la famille Monde, qui ont fondé et présidé les Imperial Chemical Industries, qui est un trust chimique considérable. Donc, dans ce laboratoire construit pour lui, ce Russe immigré en Angleterre construit ce qui est nécessaire pour faire de l'hélium liquide, pour faire des études de l'hélium liquide, c'est-à-dire commencer par liquéfier le gaz. Ça s'appelle un liquéfacteur. Ce liquéfacteur marche pour la première fois le 19 avril 1934. Et quelques mois à peine plus tard, Piotr Kapitsa va à Saint-Pétersbourg, qui devait s'appeler Petrograd à l'époque, parce que c'est le centenaire de Mendeleïev, le grand Mendeleïev du tableau. Et donc, il arrive là-bas, et là, Staline le prend au mot parce que Kapitsa était un peu prétentieux, il avait tendance à vanter ses propres talents, et lui dit, si vous êtes si fort, alors il faut dévouer votre talent à la construction de l'URSS. Et donc, Kapitsa est interdit d'émigration, séquestré. Alors ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, entre 1934 et 1937, Kapitsa, qui avait donc son caractère, obtient de Staline la construction d'un autre institut que je n'ai pas mis en photo parce que je n'ai pas la place, dans lequel il faut qu'il recommence beaucoup de choses, y compris construire un nouveau liquéfacteur, parce que Rutherford, qui n'était pas bête, a gardé à Cambridge pour s'en servir le premier liquéfacteur que Kapitsa avait construit en Angleterre. Donc ça prend 3 ans, et au bout de 3 ans, eh bien, il écrit l'article que je vous ai montré tout à l'heure, et il allait obtenir le prix Nobel pour ça 40 ans plus tard, ce qui est un peu tard. Mais je n'ai pas le temps, c'est dommage, mais d'entrer dans beaucoup de détails, et je continue. Donc, les auteurs de l'article d'en face. Eh bien, Jack Allen, c'est plus simple. Lui, il était Canadien, donc il migrait à son tour, mais dans le sens Canada-Angleterre. Et c'est lui qui, avec un autre physicien sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Rudolf Peierls, est recruté par le même Rutherford à Cambridge, tout simplement pour remplacer Kapitsa, qui avait été séquestré par Staline. Donc il est là, il fait venir un autre jeune étudiant canadien qui s'appelle Don Meisner, et c'est tous les deux qui publient l'article de la page 75 où ils font cette étude qui démontre que ce liquide n'est absolument pas classique. Alors, il y a eu beaucoup de controverses pour savoir qui avait trouvé le premier. Je n'ai pas le temps non plus, je suis désolé, mais le temps me presse déjà, de vous expliquer pourquoi, mais à mon avis, les travaux de Jack Allen et de Piotr Kapitsa sont parfaitement indépendants, sauf qu'ils savaient très bien que la concurrence était là et qu'ils étaient en concurrence avec des gens en face, etc. Quoi qu'il en soit, le comité Nobel ne m'a pas demandé mon avis et a donc attribué le prix Nobel 40 ans plus tard, mais à Kapitsa et pas aussi à Allen. La suite est plus simple. Donc, ensuite, Jack Allen est nommé professeur en Écosse à St. Andrews. Et là, il passe sa retraite à filmer l'hélium superfluide, un film historique magnifique dont j'ai extrait les images que vous avez vues tout à l'heure. Et puis, il meurt à St. Andrews tranquillement en 2001. En somme, c'est une immigration réussie. Alors, on était en janvier 1938, et en février 1938, à peine un mois après, le même Jack Allen, cette fois avec Harry Jones, découvre ce qu'on appelle l'effet fontaine. Alors c'est ici, toujours extrait du film de Jack Allen plus tard. C'est une bouteille ouverte en haut, avec en bas un bouchon en rouge de joaillier compressé, donc une poudre très fine. Donc c'est un bouchon poreux, à travers lequel, quand l'hélium est liquide et normal, il ne coule absolument pas. Mais dès qu'il est superfluide, il coule très vite et il suffit de chauffer un peu pour provoquer cette jolie fontaine. Enfin, moi, je la trouve jolie en tout cas. Donc, qu'un liquide, sous prétexte qu'on le chauffe d'un côté d'un bouchon poreux, se mette à jaillir comme une fontaine, ça, à nouveau, c'est totalement incompréhensible à l'époque. Et c'est ce qui déclenche le travail de mon premier réfugié à Paris, qui s'appelle Fritz London. Donc le voici, et lui-même, le 5 mars, donc on est à peine 3 semaines après la publication du précédent, de l'Institut Henri Poincaré, où visiblement il travaille, le 5 mars, Fritz London envoie une lettre à Nature qui est immédiatement publiée, et dans laquelle il propose une idée extrêmement difficile à admettre et révolutionnaire, qui est la suivante. Il explique que l'ordre qui envahit ce liquide à basse température est sans doute un ordre quantique, donc difficile à comprendre pour le grand public, mais je vais essayer. Il s'agit de la condensation de Bose-Einstein. Alors, Einstein, en 1924, à partir des travaux de Bose, a pensé que les particules, donc les atomes par exemple, sont aussi des ondes, c'est l'un des fondements de la mécanique quantique, et qu'à basse température, ces ondes peuvent se superposer de manière cohérente, de telle sorte que l'ensemble de la matière devient une onde macroscopique où les atomes sont indiscernables parce que c'est des ondes superposées. Je vois qu'on dit oui, ça me fait plaisir, je me dis que je suis compréhensible. Non. Et donc, c'est ça la condensation de Bose-Einstein, c'est le rassemblement d'atomes quantiques dans un même état qui forme une onde collective. C'était un peu difficile à croire, et Einstein lui-même a écrit en 1924, après son calcul, à son ami Ehrenfest, que « die Theorie ist hübsch », ça veut dire « la théorie est jolie » en allemand, y a-t-il vraiment quelque chose de vrai là-dedans ? Autrement dit, il n'y croyait pas vraiment. London, lui, a pensé que c'était ça l'explication de ce changement de propriété de ce liquide très froid. Et donc, la physique quantique ne serait pas seulement une théorie qui permet de comprendre la structure microscopique des atomes, mais aussi des propriétés de quantité macroscopique, un litre d'hélium. Alors, qui était Fritz London ? À chaque fois, je vais vous faire un petit portrait. Fritz London était né à Breslau. Breslau, c'est en Prusse orientale, je crois. C'est devenu Wrocław en Pologne. Et il avait rejoint Schrödinger, immense fondateur de la physique quantique, à Berlin. Mais en fait, à Berlin, il travaille avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Heitler, ne pas confondre bien sûr avec Hitler. Et donc, ils arrivent à comprendre pour la première fois comment deux atomes d'hydrogène se réunissent pour faire une molécule H2. Autrement dit, c'est lui qui, grâce à la mécanique quantique, fonde la chimie quantique qui est la chimie moderne. Donc, c'est loin d'être rien, surtout à 27 ans. Et il continue à travailler, il fait aussi de la philosophie et de la physique, sauf qu'en 1933, Hitler prend le pouvoir, en janvier, les lois anti-juives en avril. Fritz London s'enfuit sans sa famille, ce qui lui pose des problèmes personnels terribles. Mais il se réfugie à Oxford, en Grande-Bretagne. Pourquoi Oxford ? Parce qu'à Oxford, il y a un autre personnage, il y en a beaucoup, hein, prenez patience. Un autre personnage extraordinaire qui s'appelle Frédéric Lindemann, qui va devenir Lord Sherwell et qui sera le conseiller de Churchill pendant la guerre. Et donc Frédéric Lindemann voulait construire un laboratoire de physique des basses températures parce qu'il avait l'intuition que c'était un domaine riche. Et donc, il est allé à Berlin et à Breslau, en somme, faire son marché, c'est-à-dire chercher des scientifiques disponibles pour venir à Oxford et fonder ce laboratoire pour l'avenir de la recherche en Grande-Bretagne. Et c'est ainsi qu'il recrute Franz Simon, qui en allemand se prononce ainsi, j'espère, et qui sera plus tard Sir Francis Simon en anglais. Puis Kurt Mendelssohn, qui est un lointain cousin des deux compositeurs Fanny et Félix Mendelssohn. Nicolas Curti, qui est hongrois, et Heinz London, qui est le jeune frère de Fritz London. Et il réussit donc finalement à attirer Fritz London en lui offrant une bourse de 3 ans. Donc on commence à toucher comment on accueille les réfugiés étrangers dans un pays. Eh bien, en Angleterre, c'est relativement facilité, disons, par le mécénat de ce Imperial Chemical Industries de Ludwig et Robert Mund, qui sont les mêmes que ceux qui avaient construit le laboratoire de Capizza, dont j'ai parlé juste avant. Donc Fritz London arrive en Angleterre en 1933. Et là, il fait comme beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire qu'il voyage, et en particulier, il vient à Paris à l'invitation d'Émile Borel, qui dirige l'Institut Henri Poincaré, de Paul Langevin et du directeur de son laboratoire, Edmond Bauer, qui l'invite aussi à faire des conférences, mais cette fois au Collège de France, qui n'est pas loin, comme vous le savez. Et malheureusement, en 1936, eh bien, la bourse de l'ICI prend fin. La bourse anglaise est terminée, c'était pour 3 ans, ils n'avaient pas prévu davantage, et ils n'ont rien d'autre à lui offrir. Et heureusement, la France prend le relais. C'est-à-dire que Bauer, Edmond Bauer, offre à Fritz London une bourse d'un comité sur lequel je vais revenir, mais qui s'appelle le Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers, sujet de la thèse de Diane Dossau, soit dit en passant. Et donc, grâce à cette bourse, ils arrivent à attirer Fritz London, à l'accueillir comme nouveau réfugié, mais cette fois à Paris. Et donc, il s'installe, il est heureux. Sa femme Edith est une peintre cubiste heureuse dans le milieu parisien de l'époque. Et le 1er janvier 1937, en fait, il a une bourse de maître de recherche à la CNRS. Parce que Jean Perrin a créé le CNRS en plusieurs étapes. Et il y a une époque où c'était la caisse et pas encore le centre. Toujours est-il que ce CNRS en formation permettait justement l'emploi d'étrangers, ce que ne permettait pas la fonction publique obligatoire et son sorte de carcan à l'époque, qui gérait les postes de professeurs dans l'université. Donc, grâce à tout ça, cette conjonction à laquelle je vais y revenir, Fritz London a de quoi travailler tranquillement. Il passe un doctorat en sciences pour être promu directeur de recherche. Il est promu directeur de recherche. Ici, son jury de thèse, Louis de Broglie, Eugène Bloch, qui dirigeait le laboratoire de physique à l'École normale supérieure, et Francis Perrin, le fils de Jean Perrin. Donc, tout semble bien. Vous avez remarqué au passage que les savants réfugiés ne sont pas des réfugiés ordinaires parce qu'ils ont, grâce à la communauté internationale, des contacts internationaux. Donc, ils sont invités et accueillis. Ce n'est pas des réfugiés anonymes, bien sûr. Je crois néanmoins que l'examen de leur trajectoire, si on peut dire aussi, de leur voyage, est intéressant. Donc, Fritz London entame sa collaboration avec un autre réfugié qui sera mon deuxième savant réfugié à Paris. Et puis, je saute sur la fin avant de revenir, sur mon deuxième personnage. En septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. London et sa femme se réfugient aux États-Unis, où Paul Gross, qui est un chimiste qu'il a rencontré quand il était de passage au Collège de France, le Collège de France va apparaître partout, vous allez voir, l'invite sur un poste de professeur de chimie théorique à Duke, où il sera un peu malheureux. Il regrette le Paris des intellectuels en Caroline du Nord. Et puis, le 30 mars 1954, il meurt prématurément d'une maladie de cœur. Et c'est sans doute ce qui explique qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Et donc, je continue. Je vois que je ne sais pas l'heure, mais ça ne fait rien. Je continue avec Laszlo Tisza. Qui était Laszlo Tisza? Eh bien, c'était un Hongrois né à Budapest. Il a fait ses études auprès des meilleurs physiciens en Allemagne. Et en 1934, les ultranationalistes hongrois l'accusent de connaître des communistes, ce qui lui vaut un an de prison. Donc, il est en prison, il sort, et grâce à un autre de ses amis, Edouard Teller, il réussit à aller en post-doc se réfugier chez Lief Landau. Alors, Lief Landau, c'est le génie de la physique, j'ose pas dire soviétique à cause de ce qui va suivre, parce qu'en 1937, le régime stalinien se durcit. Landau a écrit un tract où il comparait Staline à Hitler. Ça n'a pas beaucoup plu au NKVD, ancêtre du KGB, qu'il a donc arrêté. Et il s'en est sorti de justesse par toute une histoire que, une fois de plus, je n'ai malheureusement pas le temps de vous raconter. Et donc, Tisza, à ce moment-là, se réfugie à nouveau, mais cette fois au Collège de France, on y revient, grâce à une bourse de la CNRS. Et donc, il s'installe ici, parce que ses amis hongrois, Teller et Szilard, l'ont recommandé à Fritz London, donc à Edmond Bauer. Et là, il rencontre Michel Magath. Alors, vous avez ici une photographie qui montre Edmond Bauer au Collège de France. C'est la petite cour qui est là, à gauche, en sortant. Et donc, il y a Michel Magath, réfugié russe, Edmond Bauer, professeur, ou en tout cas directeur du labo de Langevin au Collège de France. Lydia Ox est une étudiante autrichienne et Laszlo Tisza. Donc, il est au Collège de France, c'est pas loin de l'Institut Henri Poincaré, ils travaillent ensemble avec London, et là, Tisza, à son tour, a une idée révolutionnaire qui est la suivante. Il développe l'hypothèse de London, et ce faisant, il invente ce qu'on appelle le modèle à deux fluides. Donc, il explique que pour comprendre l'effet Fontaine dont je vous ai parlé, il faut accepter l'idée que ce liquide est un mélange de deux liquides, en fait. Et bien sûr, l'alcool et l'eau sont miscibles, donc ça fait un liquide homogène, sauf que les molécules d'alcool et les molécules d'eau ne peuvent pas se déplacer indépendamment les unes des autres. Dans ce modèle, au contraire, il imagine que ces deux fluides, un peu compliqués à vous expliquer, peuvent se déplacer l'un sans l'autre, et à partir de ça, il explique, comme un effet thermomécanique, mais passons, ce qu'est l'effet Fontaine. En somme, ceci est extrêmement difficile à croire à nouveau. London lui-même n'y croit pas, mais l'avenir leur donnera raison. Et effectivement, grâce à ces deux travaux, la physique quantique saute du microscopique au macroscopique, et c'est ceci que je considère comme une avancée fondamentale. Alors, la suite de Laszlo Tisza est non moins instructive. En effet, en 1939, bien sûr, c'est la déclaration de guerre. Et là, Tisza veut montrer son attachement à la France contre les nazis. Et pour ce faire, il s'engage volontaire en fait, dans la Légion étrangère pour défendre la France. Sauf qu'il est réformé pour raison de santé en décembre, puis affecté au laboratoire des poudres, où il travaille avec l'autre réfugié, Magat, à l'optimisation des carburants pendant quelques temps. Et puis, rapidement, c'est la débâcle en juin 40, et donc le Collège de France, à nouveau, à savoir Jacques Adamard, professeur célèbre de mathématiques, et sa fille Jacqueline, qui est chercheur dans le laboratoire de Langevin, prennent les deux Tisza, parce que Tisza est marié, sous leurs ailes, et les emmènent à Toulouse, où le laboratoire s'est replié. Vous voyez, c'est bon, pas facile quand même. D'autant plus que le régime de Vichy s'installe, les emplois publics sont interdits aux non-français et aussi aux Français nés de père étranger. Vous voyez qu'il y avait deux sortes de Français à l'époque. À cause de l'armistice et de son article 19, la France s'engage à livrer à l'occupant nazi les réfugiés autrichiens et allemands internés dans des camps, plus les lois anti-juives, etc. Donc, Tisza, il est tard pour s'enfuir. Sa bourse CNRS est évidemment suspendue. Et en mars 41, enfin, il réussit, par des tours de force incroyables, à obtenir un visa d'émigration, à arriver aux États-Unis, tout ça grâce à son ennemi Edward Teller, traverser l'Espagne, le Portugal, embarquer à Lisbonne, enfin, vous voyez. Et il arrive à New York, et là, ça se calme. Il est nommé instructeur au MIT pour remplacer des enseignants, comme beaucoup de réfugiés français à l'époque, d'ailleurs, pour remplacer des enseignants qui étaient mobilisés dans l'effort de guerre. Il est nommé full professeur et il meurt à 101 ans à Cambridge, le Cambridge des États-Unis. Cette tâche canonique m'a permis de le rencontrer dans des circonstances très émouvantes. Alors, je continue parce que j'ai cité le comité d'accueil, etc. Et ce comité d'accueil est très intéressant. Il a été fondé par Louis Rapkin, dont voici un des éléments de biographie. Donc, Louis Rapkin était encore un réfugié, un savant réfugié. Lui, il était biologiste, né en Biélorussie. Il avait fait des études au Canada. Il est revenu à Sorbonne, y compris des stages l'été à Roscoff, puis au Collège de France, toujours à la pointe de l'accueil des étrangers. Et grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, donc vous voyez à nouveau des mécénats privés, il peut travailler, il est l'adjoint de René Wurmser à l'IBPC. Et puis, en juillet 1936, le gouvernement de Front populaire est élu et prend la direction de l'État. Et en particulier, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et Irène Joliot-Curie, première sous-secrétaire d'État à la recherche, déclare d'utilité publique le comité créé par Rapkin pour accueillir les étrangers. Il le crée d'ailleurs sur le modèle de l'équivalent anglais qui s'appelle à l'époque le Academic Assistance Council et qui deviendra l'actuel CARA, Council for At-Risk Academics. Et donc le soutien du gouvernement est crucial à ce moment, d'abord parce qu'il faut se battre contre les discours xénophobes, antisémites de toutes sortes. Ensuite, parce que ça favorise l'apport de mécénats privés. Et donc, grâce à tout ça, le comité peut effectivement accueillir de nombreux réfugiés en France. Et c'est parce que tout ça n'existait pas avant que la France est en retard de 3 ans sur l'Angleterre dans ce problème. Alors, il faut voir aussi que Rapkin, étant étranger, n'a pas le droit d'avoir la moindre action politique. Donc, il agit dans l'ombre dans toute cette lutte. Il ne sera naturalisé que plus tard. Et donc, le comité d'accueil en question, celui-ci, est hébergé à l'Institut de biologie physico-chimique, pardon, qui est présidé par Jean Perrin et Georges Urbain. Et c'est ces noms-là qui apparaissent sur les papiers, pas celui de Rapkin. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la déclaration de guerre fait que les savants qui s'étaient réfugiés en France ou les savants français qui s'étaient menacés, par exemple, parce qu'ils étaient d'origine juive, s'enfuient à nouveau ailleurs. Alors, il y a ceux qui partent en Angleterre, et sur ce point-là, je voudrais insister sur Alban et Kowarski. Donc, le 18 juin 1940, c'est aussi la date du fameux appel de De Gaulle, bien sûr, mais le 18 juin 1940, eh bien, grâce à Lord Suffolk, un Anglais qui organise ce bateau charbonnier, 50 scientifiques français s'enfuient vers l'Angleterre, dont Alban et Kowarski. Alors, qui sont Alban et Kowarski? Eh bien, ce sont deux autres réfugiés, qui travaille dans le laboratoire de Frédéric Joliot, à nouveau au Collège de France. Ils font de la physique nucléaire, et c'est eux que Joliot-Curie, demande de transporter en Angleterre les précieux 185 kilos d'eau lourde qui permettent de faire des expériences sur la physique nucléaire. Alors l'histoire de l'eau lourde, de sa guerre, etc., mériterait une heure de débat. Et donc je vous signale simplement ce genre de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a ceux qui partent vers les États-Unis, donc London et Tizard, j'en ai déjà parlé, mais il faut voir qu'entre-temps, Louis Rapkin, qui était en France pour son comité d'accueil, est parti en Angleterre avec Henri Laugier, d'ailleurs, le directeur du CNRS naissant, et puis ensuite, assez vite, quitte Londres pour New York sur invitation, toujours la même chose de la Fondation Rockefeller, parce qu'il faut, pour obtenir un visa d'immigration, il faut être invité par quelqu'un. Et donc, ils arrivent à New York, et là, ils recommencent leur travail, qui est d'un autre genre. Ils s'emploient à accueillir des réfugiés aux États-Unis, et c'est eux qui aident à l'exil, avec leur famille, ils insistent là-dessus, de nombreux physiciens célèbres, comme Pierre Auger, Jean et Francis Perrin, Léon Brillouin, du chimiste Bertrand Goldschmidt, dont on parlait tout à l'heure avec Antoine Compagnon, des mathématiciens Mandelbrot, André Weil, etc. Donc il fait un travail considérable d'accueil des réfugiés français ou passés par la France vers les États-Unis. Et puis il y a ceux qui décident de résister en France, au premier rang desquels Frédéric Joliot-Curie, Edmond Bauer au Collège de France, qui est occupé. Donc ça aussi, c'est toute une histoire dont il faudrait donner les détails. Langevin reste en France, il est révoqué, incarcéré, placé en résidence surveillée. Et puis il y a de nombreux malheureux savants qui vont être déportés, torturés, exécutés. Autrement dit, résister en France, ce n'était pas facile. Alors, avant de terminer, j'ai encore un transparent qui me semble indispensable, c'est de considérer la bombe. Parce que j'ai déjà signalé que parmi ces réfugiés, nombreux étaient ceux qui voulaient participer à l'effort de guerre allié afin de se défendre contre les nazis et leurs alliés. Alors, l'histoire de la participation des savants à la bombe, je la résume de façon abusive, mais elle commence sans doute par la lettre de deux réfugiés aux États-Unis qui sont Einstein et Szilard. Donc Szilard, j'ai déjà nommé, c'est donc un Hongrois, Einstein, tout le monde le connaît. Et donc ils écrivent tous les deux assez tôt, c'est-à-dire le 2 août 1939 à Roosevelt, en lui disant « Attention, il nous semble possible que les nazis soient en train de construire une arme de destruction massive, on pourrait dire aujourd'hui, mais enfin disons d'une puissance colossale par rapport à tout ce qu'on connaît, qui est la bombe atomique. » Et donc ça déclenche de la réflexion, mais pas encore une action extrêmement active. Sauf que deux autres réfugiés, encore des réfugiés, en mars 40, qui sont Otto Frisch, dont je n'ai pas encore parlé, j'aimerais dire qu'il est le neveu de Lise Meitner, etc., je n'ai pas le temps, et Rudolf Peierls, que j'ai déjà cité parce qu'il a mesuré la conduction de la chaleur dans l'hélium liquide, font un calcul d'une importance cruciale. Ils calculent ce qu'on appelle la masse critique d'uranium-235 nécessaire pour construire une bombe. C'est une réaction en chaîne, ça s'amplifie et à partir d'une certaine masse, ça explose. Mais quelle est cette masse? Si c'est des centaines de tonnes, c'est hors de question, on n'y arrivera pas. Si c'est une livre, comme ils le prétendent, ils s'étaient un peu trompés, d'ailleurs c'est quelques kilos. Mais ça reste une quantité faible et ça, il est vraisemblable, mais difficile, mais possible, que les nazis soient capables de construire une bombe atomique de cette taille. Et donc l'Angleterre réagit très vite en créant la commission Maud qui alerte les Américains fin août 1941. Les Américains se réunissent avec trois experts qui sont à nouveau nos trois Hongrois, Teller, Wigner et Szilard. Ça a abouti à la création du projet Manhattan que vous savez, où Oppenheimer sera le directeur scientifique. Vont participer à l'effort militaire sur la recherche nucléaire de nombreux autres réfugiés, dont le Hongrois von Neumann, qui a calculé la hauteur optimale à laquelle lâcher la bombe pour que son effet soit maximal. Et beaucoup d'autres, les Allemands Hans Bethe et plus tard Peierls, on le retrouve, qui passera d'Angleterre aux États-Unis, quoique entre-temps il n'avait pas le droit parce qu'il était étranger. Enfin, ils ont compris que Peierls serait utile. Les Français Alban et Kowarski, dont j'ai parlé à propos de l'eau lourde, Guéron, Goldschmidt, les Italiens Fermi, Segré, etc. De très nombreux scientifiques de tous ces pays participent au projet Manhattan. En Angleterre, la recherche continue en collaboration avec les États-Unis, en particulier Curti et Simon, dont j'ai déjà parlé, tous les deux à propos de l'hélium liquide, qui pourtant n'a aucune application nucléaire militaire. Et donc, c'est eux qui mettent au point l'une des méthodes de purification isotopique de l'uranium-235, parce que pour faire une bombe, ce n'est pas l'uranium naturel, il faut extraire les 0,7% de l'isotope 235, et ça, c'est très difficile. London et TISA ne participeront pas à l'effort de guerre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils arrivent tard et que le War Department met longtemps à traiter leur dossier. Et puis la suite, eh bien malheureusement, vous la connaissez au moins en partie, sauf qu'avant Hiroshima et Nagasaki, le 6-9 août, eh bien, il y a le 16 juillet 1945, un test d'une bombe au plutonium dans le Nouveau-Mexique qui montre la puissance colossale de cette bombe atomique, même si depuis on en a fait qui sont des milliers de fois plus puissantes encore. Et donc le lendemain de ce test, Szilard, toujours le même Szilard qui en fait était pacifiste, avec 70 participants du projet Manhattan, réclame qu'on s'en tienne à la dissuasion, qu'on montre la puissance de cette arme, mais qu'on ne s'en serve pas, en particulier, contre les Japonais. Alors leur avis ne sera pas suivi, et la bombe explosera. Quelle est la responsabilité des scientifiques ? À mon avis, elle est totale, mais ce n'est pas ça le vrai problème, et donc on en parlera au prochain colloque, si vous m'invitez. J'ai fini, sauf que mon dernier transparent a trois petites phrases. La première, c'est qu'aujourd'hui, les universités et le CNRS recrutent de nombreux étrangers, surtout en sciences exactes, mais qu'on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là en mettant des exceptions à la condition de nationalité, etc. La superfluidité, donc, était mon point de départ. Eh bien, elle a une cousine qui est la supraconductivité, qui est une superfluidité des électrons dans un métal, par exemple, qui fait que ce nuage d'électrons s'écoule sans frottement, donc sans résistance électrique, de même que l'hélium liquide superfluide coule sans problème à travers n'importe quel filtre poreux, sans résistance visqueuse. Et donc, la superfluidité et sa cousine, la supraconductivité, bon, servent à beaucoup de choses, mais principalement à construire de très gros électroaimants. Alors, il y en a pour la recherche fondamentale, dont le fameux collisionneur de particules au CERN à Genève, qui s'appelle le LHC, dont on a parlé récemment à propos de la découverte du boson de Higgs. Et surtout, ça, peut-être nombreux d'entre vous ont eu un scanner IRM. Eh bien, un scanner IRM, c'est une grande bobine, un grand électroaimant fait de plein de bobinages de supraconducteurs dans de l'hélium liquide. Donc, voilà pour la superfluidité. Et enfin, alors là, j'ai hésité, mais j'ai fait le plus court possible. L'accueil des réfugiés, eh bien, de mon point de vue, c'est un devoir moral et humanitaire. D'une actualité criante, faut-il le répéter ? Le Moyen-Orient, j'aurais dû ajouter, et l'Afrique. J'ajoute le changement climatique, parce que je m'intéresse beaucoup au changement climatique, et je crois que le changement climatique, dans les quelques décennies qui viennent, vont provoquer la migration de centaines de millions de gens, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci.